Donc dans la liturgie du carême, dans la semaine sainte, nous voyons une chose qui est importante, c'est que chaque jour, il y a épître et évangile propre pendant le carême. Dans la réforme liturgique de 69, on a étendu à tous les jours de l'année l'épître et l'évangile nouveau, sur 3 années. Et donc, la querelle est plus sur la manière dont on a appliqué la liturgie, la manière, le fait que, voyez-vous, on dise la prière eucharistique à haute voix, la suppression de bénédictions, de signes de croix, de génuflexion a étonné, mais si vous voulez, certains disent que la répétition des textes pendant la semaine du dimanche, lorsqu'il n'y a pas de fête propre d'un saint, on prend les textes du dimanche. Mais pendant l'année, il y a beaucoup de fêtes. Les fêtes se divisent en solennité, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, plus particulièrement. Il y a probablement d'autres solennités. Les fêtes de première classe, qui sont Saint-Joseph, patron de l'Église universelle, l'Assomption de la Vierge Marie, je pense que c'est une fête de première classe, plus qu'une solennité. Et ensuite, vous avez les fêtes de deuxième classe, ça va être le Cœur Immaculé de Marie, ça va être le Sacré-Cœur, c'est peut-être une fête de première classe. Vous avez comme fête de première classe Saint-Pierre et Saint-Paul, mais une fête de deuxième classe, vous aurez peut-être Saint-Jean-Baptiste, la fête de Saint-Jean-Baptiste est peut-être de deuxième classe. Et ensuite, vous avez les fêtes de troisième classe, qui sont les fêtes des saints. Et vous avez des saints patrons d'église, de diocèse. Et à ce moment-là, leur fête monte à la deuxième classe, voire à la première classe. Saint Eugène et Sainte Cécile sont de première classe dans la paroisse Saint Eugène, Sainte Cécile. Les fêtes de troisième classe, ce sont donc les saints qui sont fêtés en semaine et qui s'effacent devant le dimanche ou devant les fêtes de seconde, première ou des solennités. Les fêtes de quatrième classe, ce sont des féries. Alors, paradoxalement, ça veut dire fête, hein, féries. Mais c'est le dimanche, la reprise du dimanche. Dans les jours de féries, de quatrième classe, on peut le lundi dire une messe votive de la Sainte Trinité. On peut le mardi célébrer une messe votive des saints anges. Le mercredi, donc on écarte les textes du dimanche, du coup. Et lorsqu'un dimanche il y a eu une solennité, normalement on devrait le premier jour libre prendre les textes du dimanche. Le mercredi, c'est la messe votive de Saint-Joseph. Le jeudi, c'est la messe votive du Saint-Sacrement. Le vendredi, c'est la messe votive de la Passion. Le samedi, c'est toujours la messe de la Vierge Marie au samedi, s'il n'y a pas de saint. Et là, elle est de troisième classe, en fait. La Vierge Marie au samedi l'emporte toujours. Et s'il y a un saint, à ce moment-là, on fête le saint le samedi. Ce qui fait que les messes pour un saint, par exemple, Saint Thomas d'Aquin, qui est docteur de l'Église, vous avez des textes propres au docteur de l'Église. Saint Ambroise aura le même texte que Saint Augustin et que de Saint Thomas d'Aquin. Vous aurez aussi les Saintes Vierges, Sainte Agnès, Vierge et Martyr, mais vous aurez aussi des saintes qui étaient mariées, qui étaient canonisées. Et donc, les textes seront les mêmes. Mais si pendant une semaine, vous avez, par exemple, Sainte Marguerite Marie, de Paray-les-Moniales, et Sainte Bernadette, mais ce n'est pas les mêmes dates, vous aurez quasiment les mêmes textes. Et parfois, dans une semaine, on disait deux ou trois fois le même texte. Alors, dans la réforme liturgique, on s'est dit, on va faire comme en carême, ou comme pendant l'octave de la Pentecôte, ou comme pendant l'octave de Pâques, c'est-à-dire épîtres et évangiles différents chaque jour. Qu'est-ce que c'est qu'une octave? Une octave, c'est la fête qui est prolongée pendant 8 jours. Et donc, cette fête prolongée pendant 8 jours, c'est une octave de première classe. Il y avait des octaves de deuxième classe, mais c'était à ce moment-là le même texte. Je crois que Saint Jean-Baptiste avait une petite octave. L'octave de la Pentecôte a été supprimée. Ça, on n'a pas compris, mais bon, c'est comme ça. Alors même que, justement, ça prolongeait la fête en rouge de la Pentecôte pendant toute une semaine. L'octave de Pâques a été maintenue, l'octave de Noël a été maintenue. Et c'est en s'inspirant du carême et des octaves de Noël et de Pâques, et de la Pentecôte d'ailleurs, qu'on a mis des textes tous les jours, différents, dans la réforme de 69. Mais tout cela pour vous dire que dans le carême, ceux qui pensent qu'il faut une stabilité des textes, qu'il faut même les répéter pour qu'on les connaisse bien, parce que l'année A, B et C ne faisaient pas revenir le dimanche les mêmes évangiles. Tandis que dans le missel traditionnel, vous avez l'économe infidèle qui revient tous les ans. Vous avez le fils prodigue qui revient tous les ans. Alors que dans la réforme liturgique, année Saint Matthieu, année Saint Luc, année Saint Jean ou Saint Marc, on prend plus particulièrement tel évangile, et donc ce n'est pas le même évangile qui vont revenir, ou ils vont revenir tous les 3 ans. Voyez. Ce qui fait d'ailleurs un plus grand éventail de la lecture de la Bible, avec parfois des textes qui sont pas du tout progressistes. Parce que, ayant voulu choisir le maximum de textes, ils sont retrouvés parfois à prendre des textes qui n'étaient pas dans le missel traditionnel, dans le missel Saint-Pie V, 62, et qui sont parfois très austères, enfin très forts. Donc, bon. Et donc, en ce qui concerne le temps du carême et la semaine sainte, et plus particulièrement la semaine de la Passion, donc on entre dans des textes qui explicitent de manière très précise le temps liturgique que l'on vit. Les 4 dimanches du carême, n'étant pas dans le carême, ils ont été déplacés au mercredi des cendres, jeudi des cendres, vendredi après les cendres, samedi après les cendres. Mais sinon, il y a une gradation du premier dimanche de carême, deuxième dimanche de carême, troisième, quatrième, c'est toujours le dimanche de l'étaré, c'est-à-dire réjouis-toi Jérusalem, parce que la rédemption est proche, la victoire est proche. Qu'est-ce que nous enseigne le carême? Pas seulement le péché, à lutter contre le péché, mais le combat spirituel du pécheur et le combat spirituel de l'innocent. Et l'innocent par excellence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela le carême. Parce que l'aboutissement du carême, c'est une purification par le fait que l'agneau de Dieu meurt pour nous. L'innocent va mourir pour nous. Ce qui doit nous pousser à vivre en vérité, en toute justice, voyez, et à nous convertir, plus particulièrement pour manger la Pâque. Parce que les Juifs devaient se purifier pour consommer l'agneau pascal. Et pour les Juifs, c'était tellement important, et il y avait une telle règle exigeante, puisqu'on ne pouvait sacrifier l'agneau pascal qu'à Jérusalem. Donc tous les Juifs qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage de Jérusalem ne mangeaient pas l'agneau pascal. En Galilée, en Judée, dans les villages trop loin de Jérusalem, où l'agneau pascal ne pouvait être sacrifié qu'au temple, et les prêtres donc prenaient le petit agneau d'un an, tout blanc, le sacrifiaient, prenaient une part et donnaient l'autre part aux fidèles qui ensuite le faisaient cuire pour le manger dans la nuit de Pâques. Normalement, ils le mangeaient debout, en habit de voyage, le bâton à la main et avec des herbes amères et un pain non levé, parce que quand ils ont reçu l'ordre de Moïse de partir d'Égypte, le pain n'a pas eu le temps de lever. Et alors, il y a des querelles sur le pain azim ou le pain levé avec l'Orient, chrétien, hein, mais l'Occident a du pain azim, mais en Orient, orthodoxe et catholique, vous avez du pain, avec du levain, et qui est consacré et plongé dans le précieux sang. Ce qui fait que lorsqu'on a décidé de plonger l'hostie dans le précieux sang en Orient, alors que sans doute dans les premiers siècles, les apôtres célébraient le jeudi saint comme ils l'avaient vu célébrer, ce qui fait que les gens communiaient au corps et au sang. Mais quand la communauté chrétienne est devenue importante, si vous voulez, communier à la coupe, c'était d'un point de vue pratique et même d'hygiène devenu impossible. Ce qui fait qu'en Orient, du coup, pour conserver la communion au corps et au sang, on a donné la communion en plongeant l'hostie dans le précieux sang. Ce qui rendait la communion à la main impossible. Voyez, puisque l'hostie est imprégnée de précieux sang, donc on ne peut la poser que sur la langue. Alors que, si vous voulez, la messe originelle, en effet, on communiait à la main, on recevait la coupe, parce que on reproduisait le repas pascal. Sauf que c'était un sacrifice, et que les apôtres ont reçu le corps de notre Seigneur et le sang de notre Seigneur avec l'annonce de sa mort. Je peux vous assurer que c'était pas joyeux. Enfin, dans l'espérance, un peu lointaine, puisqu'ils ne croyaient même pas en la résurrection, ils se disaient, mais c'est pas possible, le Messie peut pas mourir. Et donc, ils étaient plongés dans la tristesse après ce repas. Et au jardin des Oliviers, on dit, ils se sont endormis de tristesse, ils n'ont pas pu veiller avec le Christ, ils étaient décontenancés. Et Judas, qui lui était complètement déçu depuis longtemps, avait décidé de livrer notre Seigneur. Et ne croyez pas les exégètes ou les pseudo-spirituels qui vous disent qu'en fait Judas est un saint homme et que c'était pour pousser le Christ à se révéler, ou même pour pousser le Christ à mourir plus vite qu'il l'a livré. Le Christ lui reproche. Hein. Et donc c'est pas une convention entre eux, allez, hein, tu me livres, je meurs, et youpi. Hein. Bon, c'est Judas a péché. Ensuite, il a pu se repentir, n'en déplaise à certains qui font des livres, qui veulent absolument que Judas soit damné. Bon, on verra ça à la fin des temps. Hein. Bon. C'est pas une certitude. Et donc, ce qui fait que la messe en elle-même était le repas pascal, que lorsque Saint-Pierre est venu à Rome, il a célébré la messe comme il l'a vu célébrer du Christ, et qu'on a justement, pendant plusieurs siècles communier à la main et à la coupe, mais très très pieusement, puisqu'on était peu nombreux, on allait se faire tuer, mourir martyr, être arrêté par l'Empire romain. Donc on a des écrits des pères de l'Église qui ont été utilisés au XXe siècle pour dire, mais puisqu'on communiait à la main à l'époque, on peut communier à la main à nouveau maintenant. Sauf que ça a été une erreur terrible parce que on s'est retrouvé avec des personnes certainement très pieuses et qui pouvaient communier à la main comme les premiers chrétiens et des personnes tièdes ou indifférentes. Et alors là, on s'est retrouvé avec, si vous voulez, de la confusion. C'était peut-être pas le moment. Dans le même temps, actuellement, vous avez des personnes sans doute très pieuses qui communiquent très pieusement quand elles reçoivent la Sainte Hostie. Mais quand vous voyez des gens qui ont écrit leur course ou un numéro de téléphone sur leur main, vous dites, même très pieuses, vous voyez, ça le fait pas. Voyez. Et vous en remarquerez que pour le coup, on se lave les mains. Et le prêtre doit se laver les mains. Alors, la liturgie donc va se forger par le repas pascal qui est fêté le samedi soir pour le dimanche. Et donc, on va faire comme les Juifs, on va lire la Sainte Écriture, on va prier les psaumes de David, de Salomon et des saints prêtres du Temple, les 150 psaumes, pas forcément pas en entier, hein, mais ce qu'on appelait des veillées de prière. Et donc, la messe elle-même n'était que le samedi soir, pour que la consécration se fasse le dimanche à l'aube. Il n'y avait pas de messe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Par contre, la communauté chrétienne se rassemblait le samedi soir. Entrait en prière, on lisait les textes, on priait les psaumes, on chantait des prières, des hymnes. Et puis, si vous voulez, comme... la tante avait été brûlée vive un mois avant, la cousine décapitée, tout ça. Les gens étaient très pieux. Vous voyez, mon père a été mangé par les lions hier. Ah, très bien. Donc, les gens étaient vraiment très, très pieux. Vous voyez. Et donc, ces veillées étaient très intenses. Et quand vous aviez un homme, parce que le baptême allait être donné et que le parrain serait présent et que la personne serait baptisée dans une piscine baptismale, dans un baptistère creusé, pour que il soit comme dans le Jourdain, plongé dans l'eau. Eh bien, c'était un homme qui présentait un homme, c'était une femme qui présentait une femme. Donc l'homme qui arrivait et qui allait peut-être avoir le baptême de sang avant le baptême d'eau, parce que il arrivait la nuit, je voudrais devenir chrétien, je suis officier, je suis fonctionnaire impérial, dénoncé le lendemain par un espion qui était dans l'assemblée, il était décapité à l'épée, hein, parce que c'était un esclave, il était crucifié. On n'était pas sûr des personnes, donc il fallait que quelqu'un l'introduise dans la communauté, le soir, voyez. Donc il faut s'imaginer ces persécutions avec des temps de paix, mais qui restaient assez méfiants. Et quand vous avez eu des temps de paix des années 220, 230 à 250, et que vous avez eu une persécution épouvantable en 250, alors que ça faisait 15 ans que les chrétiens ne se méfiaient plus, ça a été un massacre, parce que tout le monde connaissait, les gens se disaient chrétiens du coup. Du coup, on a pu les arrêter, leur dire « Alors, vous sacrifiez aux idoles, vous sacrifiez à la statue de l'empereur ?» Ah non. Alors, on les tuait. Donc, ça a été terrible. Hein. Dans les années 250, vous aviez presque plus de prêtres à Rome. Ils étaient tous martyrs. Oui. On les avait repérés, arrêtés et tués. Oui. Eh bien, la messe, elle est restée, voyez-vous, ce repas pascal qui était célébré le samedi soir, préparer le samedi soir pour qu'il y ait ensuite la célébration de la consécration de Jésus le dimanche matin. Et les gens communiaient, se confessaient pour communier, et, si vous voulez, petit à petit, la messe a débordé en semaine. Et les prières se sont figées dans des sacramentaires dont nous avons des exemplaires des années 460, du 5e siècle, du 7e, du 8e siècle, alors recopiés. Mais on a au moins des sacramentaires des années 600, avec des oraisons qu'on peut retrouver dans le missel actuellement. Et donc, la liturgie romaine, c'était la liturgie de la messe telle qu'elle était pratiquée à Rome. Vous aviez une autre liturgie à Alexandrie. Vous aviez une autre liturgie en Irak, chez les Chaldéens. Vous aviez une autre liturgie à Jérusalem. Vous aviez une autre liturgie à Antioche. Vous aviez une autre liturgie en Inde. Et parce que c'est l'apôtre Saint Thomas qui leur donne le repas pascal et eux retiennent ce que Saint Thomas leur a enseigné de manière un peu différente que de la manière dont Saint Jean le célébrait à Éphèse, dont Saint Pierre célébrait à Rome. Ce qui fait les différences liturgiques. Il y a jusqu'à 24 traditions liturgiques dont certaines sont assez communes en Orient, et vous avez la tradition romaine, latine. Ce qui fait que lorsqu'on étudie l'évolution liturgique des textes qui ont été choisis, des coutumes, eh bien, elles sont différentes. Et vous aurez par exemple dans la liturgie russe, mais russe catholique, et puis russe devenu orthodoxe. Mais aussi bien les catholiques que les orthodoxes ont la même liturgie, quand elle est orientale, enfin ici russe. Et donc vous avez, quand elle est épiscopale, vous avez l'évêque qui représente le Christ, l'archevêque, et puis vous avez 12 évêques, vous avez des prêtres qui représentent les apôtres. Et vous avez le Christ qui s'approche de Pierre, et Pierre refuse qu'il lui lave les pieds. Donc, cette particularité n'existe pas dans la liturgie latine. Voyez-vous, on prend 12 hommes, et le premier, qui est Pierre, ne se lève pas en disant « non ». Et dit les paroles de Pierre, hein. Tu ne me laveras pas la tête in aeternum. Enfin, tu ne me laveras pas les pieds. Et là, le Christ lui répond. Donc, c'est le dialogue qui était lu est vécu dans le lavement des pieds lui-même. Et donc, à ce moment-là, il dit, eh bien, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, il répond, alors pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. Il y a comme ça une scène dans la liturgie orientale. Et vous ne l'avez pas dans la liturgie latine. Dans la liturgie latine, vous avez le prêtre qui se lève, qui met qui retire les ornements, qui est en aube et qui va laver les pieds de 12 hommes. Et ce qui fait que, avant les réformes liturgiques qu'il y a eu du temps de Pie XII, le lavement des pieds se faisait après la messe, parce que le Christ a lavé les pieds des apôtres après la messe. Vous voyez ? Et donc, Judas n'était pas là. Vous voyez ? Et on prend quand même 12 hommes. On n'en prend pas 11. Et puis, vous avez une tradition qui est occidentale, qui est latine. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un ange qui est apparu à une liturgie pontificale à Rome et qui est venu. Sous une forme humaine, ce qui fait que le pape lui a lavé les pieds, et du coup, il y a 13 personnes ici, à Saint-Eugène, on essaye de faire un peu un mixte entre avant, après, Pie XII, et donc, on accepte ceci ou cela, Donc jusqu'à présent, j'ai pas craqué, j'ai pas on n'a pas on va pas laver les pieds à 13 personnes à mon avis. Si vous comptez, je vais compter. 13, non, c'est pas possible. 13, non, pas bon. Voilà. Non, moi j'ai compté 12, oui, mais voilà. Bon. Bon. Ce qui fait que cette liturgie, elle était introduite par des lectures. Et donc, chaque jour, nous avons ces lectures. Alors, ce qui est respecté dans la réforme liturgique de 69, les années A, B et C, c'est la montée en tension depuis le mercredi des cendres jusqu'au dimanche de la Passion et le dimanche des Rameaux. Il y a une tension de plus en plus forte. Et là, voyez-vous, on expose les querelles, les agressions, les volontés de tuer le Christ. Nous sommes dans la quatrième semaine de carême et les textes sont de plus en plus durs. Et dimanche prochain, nous serons dans au premier dimanche de la Passion. Et donc, quelle est la différence? C'est toujours le carême, hein. Mais après quatre dimanches, on rentre vraiment dans la plus grande tension. On va tuer l'agneau de Dieu. Et il va, de manière méritoire, mourir pour nous. La passion, c'est souffrir. Voyez-vous, c'est au sens philosophique du terme, le mot passion, c'est quelque chose qui reçoit une action. Vous êtes passif et quelqu'un vous bouscule, quelqu'un vous met en action, vous fait agir, vous fait réagir. Par exemple, les sens, les cinq sens de l'homme, voyez-vous, il y a une passion de l'œil à recevoir la lumière et les longueurs d'onde, au sens philosophique du terme. Il y a une passion de l'oreille à recevoir les sons. On est passif, les sens sont passifs. Qui est-ce qui produit l'action? C'est l'objet qui est jeté sur le sens. Objectum, c'est ob, c'est devant, et yectum, c'est jeté. L'objet, c'est ce qui vous saute à la figure, voyez-vous? Ou c'est ce que vous mangez, ce qui agresse vos papilles sur votre langue, voyez? C'est un sucre, ça vous agresse pas trop, hein. Je vais pas vous parler de chocolat en plein carême, mais bon. Vous voyez, donc, les sens sont passifs. Et quand vous êtes un patient d'un médecin, c'est pas qu'il vous fasse du mal, mais c'est que vous attendez qu'il agisse sur vous, qu'il vous guérisse. Vous êtes un patient. Vous voyez, impatient aussi de guérir, mais vous êtes patient du médecin. Et donc, ce qui est passion, au sens spirituel du terme, c'est ce que Jésus va subir. Là, c'est une action non pas bienveillante, non pas soignante, mais agressive. Et donc, le temps de la passion a deux dimanches. Le premier dimanche de la passion et le deuxième dimanche de la passion qu'on appelle le dimanche des rameaux. Mais en fait, qui est le second dimanche de la passion. Dans le temps de la passion, comme le dit le commentaire du missel quotidien complet des éditions Sainte-Madeleine du Barou, eh bien, le temps de la passion, c'est un temps bien particulier qui nous fait entrer dans la tension finale.